commencer par une petite méditation. C'est pas mal commencer par une méditation, comme ça, ça vous détend. Certains dorment, et après, pendant l'enseignement, ils sont tout alertes. C'est ma technique. Faire méditer les gens. Bon, allez, j'arrête. Donc, on va faire 5 minutes de méditation sur la respiration. Juste ça. Comme ça, vous n'aurez pas le temps de dormir. Donc, focalisez votre attention sur la respiration. Donc, vous n'allez pas y arriver pendant 5 minutes, c'est sûr, mais au moins, essayez. Chaque fois qu'une pensée vous traverse l'esprit, eh bien, ça veut dire que vous l'avez remarqué. Et donc, comme vous l'avez remarqué, vous n'êtes plus dans la pensée. Vous êtes justement dans l'attention. Donc, ce n'est pas grave, en fait. Si des pensées vous traversent l'esprit, aucune importance. Simplement, vous les remarquez. Et c'est un très, très bon signe de l'avoir remarqué. Et vous revenez aussitôt sur la respiration sans vous flageller. Donc vous pouvez vous concentrer par exemple à l'entrée des narines et vous observez le souffle qui entre et qui sort. Maintenant, vous allez essayer de regarder l'espace dans lequel évoluent ces pensées qui s'élèvent. Donc maintenant, en fait, vous vous concentrez sur les pensées. Et vous les regardez passer dans cet espace. Cet espace mental qui n'est autre que la nature de votre esprit. Et essayez de bien ressentir son caractère clair, spacieux et illimité de votre esprit. Et notez bien donc que les pensées sont comme des nuages qui circulent dans cet espace. Rien de plus. Et maintenant, pour terminer, vous allez regarder non plus votre esprit comme objet, mais comme sujet. C'est-à-dire qu'en fait, vous regardez ce qui regarde. Vous regardez ce qui observe, ce qui perçoit les pensées, ce qui perçoit l'esprit. Autrement dit, vous n'essayez pas d'objectiver quoi que ce soit, vous restez simplement posé dans la nature de votre esprit sans chercher à le voir comme objet. Et dans cet état mental, est-ce que vous sentez la présence d'un je ? Est-ce qu'il y a un moi qui est là ou pas ? S'il y a un moi, s'il y a un je, où est-il exactement ? N'essayez pas tant de l'analyser que de le ressentir. Où est-il ce je auquel vous vous identifiez ? Et qui en est le propriétaire ? À qui est-ce qu'il appartient ? Maintenant que votre esprit est calme, tranquille, que vous vous sentez bien détendu, bien centré, établissez une motivation altruiste pour votre session de, pour notre session de l'après-midi. Pensez que vous ne méditez pas, pas seulement pour votre propre bienfait intellectuel ou émotionnel, mais que ce temps que l'on passe ensemble, vous le prenez pour développer votre esprit, afin d'atteindre un état où vous pourrez être vraiment bénéfique à vous-même et aux autres, et à tous les êtres. Donc dans notre exploration du refuge, des trois joyaux. Il y a trois points importants. Donc, comme on l'avait vu tout à l'heure, donc bien comprendre ce qu'est la nature de l'esprit. Et ça, bien sûr, c'est bien de l'analyser, de lire des livres à ce sujet, mais c'est bien et c'est encore mieux de le ressentir. Comme on l'a fait un petit peu dans cette méditation, où j'espère que vous avez eu une expérience de vacuité, peut-être, ou en tout cas de rapprochement un peu avec la nature de l'esprit. Donc d'essayer de bien analyser ce qu'est la nature de l'esprit, ou de l'analyser ou de le ressentir en tout cas, d'avoir confiance, deuxièmement, qu'il est possible d'atteindre cet état de, d'éveil. Et plus on, donc, on aura l'expérience de la nature de l'esprit, plus on verra que l'éveil est possible. Et la deuxième chose, c'était donc de se dire que toutes les perturbations mentales n'étaient qu'adventices, c'est-à-dire qu'elles ne faisaient pas intrinsèquement partie de la nature de l'esprit, qu'elles étaient différentes, qu'elles étaient comme des ajouts qui étaient là pour un instant, mais qu'elles étaient complètement impermanentes et qui suffisaient Elles pouvaient disparaître si on appliquait les antidotes. Ça, c'était le troisième point. Et ça, on peut en faire. Ça, c'est trois niveaux, on peut en faire l'expérience. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être Bouddha pour en faire l'expérience. Ces trois points, on peut essayer de les ressentir en méditation, quand on médite sur le souffle, par exemple, comme ça. Et voilà. Et ça amène un peu de confiance, quoi. L'autre méthode pour avoir la confiance, ben, c'est d'étudier les textes, les sutras du Bouddha, où il parle de la nature de Bouddha, ou les textes des érudits indiens, des grands pandites comme Nagarjuna, Chandrakirti, tous les grands Shantideva, tous les grands philosophes, plus que philosophes, les grands yogis aussi, qui ont écrit là-dessus. Donc ça, c'est une autre méthode. Bon, dans cette exploration du refuge, je crois que ce que je voudrais que soit à la fin du week-end, ce que j'aimerais en tout cas, que vous, ce avec quoi vous repartiez, c'est que vous avez compris ce que c'est que le refuge, hein, pour que ça laisse une trace. Ensuite, que vous ayez confiance qu'il est possible d'atteindre cet état, ou en tout cas que vous acceptez la possibilité d'atteindre cet état, c'est-à-dire de l'éveil, que l'éveil est possible, ou l'état de refuge. Et troisième point, un peu plus difficile, mais qui va venir avec le temps peut-être, c'est comment l'intégrer dans notre vie quotidienne. Ça, c'est peut-être le point le plus important. Et là, il ne faut pas être trop pressé non plus. C'est pas... Il n'y a pas la clé magique, hein, qui vous permet à tout instant de vous relier à cette nature de Bouddha ou à la nature de votre esprit ou au refuge. Ça, c'est vous-même qui allez y arriver à force de réflexion et de méditation, bien sûr. Ça va apparaître, ça va faire son chemin, tout ça. Bien sûr, ça fait son chemin dans la mesure où on y revient, hein, dans les... on ne laisse pas ça, on n'entend pas ça pour une fois, et puis après on laisse tomber. Ça veut dire qu'il faut, j'espère, en tout cas, pendant... On a quoi, vous avez trois mois jusqu'au mois de septembre, que le refuge et le karma, hein, ces deux choses, hein, refuge et karma, ce soit vos sujets d'études pendant ces deux mois. Je vous assure que si vous étudiez vraiment le refuge pendant un ou mois ou deux, en trouvant des livres là-dessus, des textes, il y a quelque chose qui va se passer, ça je vous le garantis. Donc je vous enverrai, je vous mettrai dans les... en même temps que vos devoirs, je vous mettrai le chapitre du Lamrim qui parle du refuge, pour que vous ayez toutes les parties, vous savez, tous les trucs un peu qu'on n'a pas besoin de... Il faut savoir, parce que ça fait partie de l'enseignement, mais justement qui permettent de vraiment comprendre le sujet à différents niveaux. Ce que je voudrais maintenant, qu'on continue quand même un petit peu à voir certaines choses d'une manière logique, avant de rentrer dans la description des qualités et autres. Oui, pardon, j'ai tendance à me rapprocher trop du micro. Merci, Sanka. J'essaye de pratiquer le bouddhisme depuis presque 40 ans maintenant. Et je me rends compte qu'on revient toujours au refuge. C'est pas, le refuge, ce n'est pas quelque chose d'acquis, hein, une fois pour toutes. Quoi. On l'a, et puis voilà, c'est fini. C'est, ça fait partie des bases, qui ne sont pas vraiment des bases d'ailleurs, puisque ça va jusqu'au fruit, et ça permet de... C'est quelque chose sur lequel il faut sans cesse revenir. Et plus on pratique, plus on étudie, plus il y a quelque chose qui se met en place. Il ne faut pas être trop pressé, hein, ça c'est sûr. Et j'avoue que bon, je ne prétends pas connaître tous les détails, toutes les subtilités du refuge, loin de là, hein, bien très très loin de là. Mais c'est quelque chose qui commence à avoir du sens pour moi au bout de tout ce temps. Mais j'avoue que les premiers renseignements que j'ai reçus sur le refuge, c'était bon, moi, peut-être un peu de manière traditionnelle et j'avais un peu de mal à me relier à ça, hein, disons. Je ne voyais pas trop... Oui, ça avait un sens, bien sûr, ça avait un sens, mais par rapport à ma vie, par rapport à mon quotidien, c'était pas encore très intégré. C'est pour ça que je dis que vraiment le refuge, c'est quelque chose qui évolue. Hein, cette réflexion sur le refuge, ça, c'est quelque chose qui évolue et plus vous allez réfléchir là-dessus, mais vraiment réfléchir. Hein. Et pas, il ne s'agit pas d'ingurgiter des listes de quelles sont toutes les qualités du Bouddha, les 8 qualités du Bouddha, les 8 qualités du Dharma, les 8 qualités du Sangha. Certes, c'est bien d'y réfléchir, de les analyser, de voir ce que ça veut dire pour nous, mais de s'interroger vraiment, 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 au plus profond, hein, de ce que l'on croit possible et ce que l'on croit impossible. Voilà, ça c'est... À plusieurs moments de notre vie, on doit faire ça, en fait, pour voir justement où on en est. Parce que je trouve, en fait, c'est pas évident. On a des limites, comme justement. On dit que l'esprit est illimité, tout ça, mais dans notre situation actuelle, on ressent constamment des limites, je trouve. Il y a plein de choses qui nous limitent. Et ça, que ce soit au niveau familial, au niveau des contingences, je ne sais pas quoi, par le travail, par nos activités. C'est comme si on avait... c'est le problème du karma, justement. On est né avec un corps, avec un esprit, qui sont soumis aux perturbations mentales et soumis au karma. Donc, on a comme une espèce de... comme un mécanisme, comme ça, qui fonctionne. Et ce mécanisme, corps-esprit, hein, comme une machine, en fait, comme si on était une espèce de machine. Je ne sais pas si c'est Descartes qui disait ça, mais comparer l'homme à une machine. Mais ce n'est pas idiot, parce que, en fait, c'est comme s'il y avait deux niveaux. Il y a le niveau, vraiment, de cette enveloppe qui est très solide, où il y a un corps humain avec des os, avec quoi, qui apparaît très solide. Et un esprit aussi qui fonctionne, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, parce qu'on ne connaît pas bien le fonctionnement de notre esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a vraiment appris à l'école ou ailleurs. Et à moins qu'on soit psychologue et qu'on s'intéresse à ça, pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Donc on est forcément limité par rapport à cette enveloppe charnelle. Quoi. Et à côté de ça, on a cette... On a cette quête spirituelle d'une perfection. Et parfois, les deux sont un peu en contradiction, je peux dire, parfois en tout cas, ou en tout cas, on sent comme s'il y avait une limite et qu'on ne pourra pas transcender cette limite parce que voilà, on est né dans un tel environnement, telle famille et tout ça, et qu'on ne peut pas aller plus loin, on est bloqué par ça. Et on peut avoir ce genre de sentiment, ce genre de truc, ce genre de sensation de limite qu'on ne pourra jamais franchir. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont. Mais ça, c'est une vision erronée, ça. Parce que c'est resté à un niveau extrêmement grossier de ce que nous sommes vraiment, comme on a un petit peu parlé. Et plus on va étudier le refuge, justement, plus le refuge va nous permettre de sortir de ces contraintes physiques ou mentales pour aller vers ce à quoi on aspire le plus. Et à ce moment-là, on dépasse quelque chose. Bon, pour vous décrire un processus, hein, plus ou moins, que je sens, mais bon, c'est après en fonction de chacun. Hein. Donc c'est important de savoir vraiment où on en est, en quoi est-ce qu'on croit, et si on pense que c'est possible donc de dépasser ses limites. Une question importante aussi, à laquelle qu'il ne faut pas négliger, je pense, c'est que est-ce qu'on croit qu'il y a déjà eu un Bouddha ? Est-ce qu'il y a déjà eu un Bouddha ? Ou est-ce que c'est une pure invention des Tibétains ? On n'était pas là, hein, il y a 2500 ans, sous l'arbre de la Bodhi, on en a entendu parler, il y a des textes, tout ça. Mais est-ce que nous y croyons vraiment, ça, qu'il y a déjà eu un Bouddha qui est quelqu'un qui a atteint l'éveil ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça paraît une question un peu bizarre, mais... prends le micro, André. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut analyser. Si nous, parce que ça va très loin. Hein.
Oui. Oui. Par contre, la question que tu peux poser, qui peut-être dans, est-ce qu'on a un esprit ? Ça, c'est une question où on peut avoir, je pense, des réponses très précises.
Oui.
Pour plusieurs, c'est validé par le Bouddha, c'est vrai. Mais l'esprit, ça me paraît évident. C'était validé, on a un esprit. Et ça, c'est la très grande nouvelle du bouddhisme, de mon point de vue. On a un esprit qui est validé.
Et ça me fait penser justement quand, depuis ces dernières années, le Dalai Lama a organisé beaucoup de conférences ou de réunions avec des psychologues occidentaux, des scientifiques en général occidentaux, et justement dans un but de partage, en disant que le bouddhisme tibétain, le bouddhisme en général, et le tibétain en particulier, mais puisqu'il a gardé tous les aspects, le bouddhisme, justement, avait des réponses pour tout ce qui concernait l'esprit ou la psychologie. La psychologie en Occident, c'est assez récent quand même. Hein. L'étude de la psychologie, l'étude de l'esprit, c'est quelque chose de relativement récent. Pour le bouddhisme, ça date de 2500 ans. Donc, et tous les textes des penseurs indiens sont extrêmement riches sur le fonctionnement de l'esprit, sur la description du fonctionnement de l'esprit, sur tous les rouages de l'esprit. Et il y a tout un vocabulaire, bien sûr, là-dessus, tout un tas d'expressions qui sont très, très difficiles à traduire, et qui expliquent justement le fonctionnement de l'esprit. Donc, le Dalai Lama disait que ce serait bien que les Occidentaux viennent prendre dans le bouddhisme tibétain, justement, des éléments qui pourraient éclairer la psychologie occidentale. Et eux, parallèlement, les Tibétains, les bouddhistes, avaient beaucoup à apprendre sur tous les aspects de physique quantique, par exemple, ou de tout ce qui est scientifique, que nous, en Occident, on a développé quand même pendant tous ces siècles à fond. On a vraiment eu des scientifiques, on est capable d'envoyer des fusées sur la Lune, etc. Donc, des choses, des prouesses, quand même, aux yeux des Tibétains. Donc, c'était le but, justement, d'échanger, en fait, deux façons de voir la réalité. En fait. Une façon scientifique, la nôtre, celle des Occidentaux, et une façon plus intérieure, celle des bouddhistes tibétains. Ça, je pense que, justement, ça aussi, c'est un domaine. Il y a des livres qui sont écrits là-dessus. Maintenant, on peut lire ces échanges, comment ils sont transcrits. Et ça aussi, s'intéresser à ça, je trouve que c'est aussi important, puisque nous, on vient de cette culture quand même assez matérialiste, scientifique, justement. Et souvent, l'esprit, on le conçoit comme quelque chose de très matériel, malgré tout. Pas avec toute la spiritualité qu'il y a derrière le bouddhisme, avec toutes les descriptions. Donc s'intéresser à ça aussi, ça va aussi nous amener vers ça devrait aussi nous amener vers le refuge aussi, hein, en comprenant, plus on comprend l'esprit, hein, plus on va comprendre justement qu'il est possible d'atteindre justement cet état. Et sa santé, le dalai lama, justement, insiste beaucoup, et pas que lui d'ailleurs, tous nos maîtres, tous les grands maîtres tibétains, disent qu'il faut qu'on analyse, il faut qu'on réfléchisse. Et à chaque intervention que j'entends du dalai lama sur Zoom, par exemple, il met l'accent là-dessus. Qu'il ne suffit pas de réciter des prières comme ça avec une foi aveugle. Il ne faut pas dire je prends refuge dans le Bouddha, justement, sans y penser. Il faut que la prière ou la foi, la dévotion, elle soit alimentée par l'analyse. Et à ce moment-là, ça devient quelque chose de stressable. Ça devient ce qu'on appelle une foi fondée sur la raison et pas une foi émotionnelle. Le problème d'une foi émotionnelle, c'est bien beau, bien sûr. Parfois, on a des élans de foi fantastiques, mais ce n'est pas stable. Ça se produit de temps en temps. Et puis, bon, si on a de la chance, assez souvent, mais sinon, pas très souvent quand même. Il faut être dans un état particulier. Tandis qu'avec avec l'analyse, on peut avancer progressivement comme ça. On peut aller de plus en plus en profondeur. Donc, n'oubliez pas cet outil, en fait, qu'est l'analyse. Et la méditation analytique. Donc c'est bien de méditer sur la nature de l'esprit, tout ça, ça donne une certaine ouverture, un certain espace, mais aussi il faut analyser. Pas forcément analyser des concepts abstraits, très compliqués, mais simplement regarder qui nous sommes et où nous en sommes. À quoi nous croyons. Quelles sont nos croyances ? Est-ce qu'il est possible d'être Bouddha ou est-ce qu'il n'est pas possible d'être Bouddha ? Est-ce qu'il y a eu un Bouddha ou est-ce qu'il n'y a jamais eu de Bouddha ? En quoi est-ce qu'on croit ? Là, il ne faut pas avoir peur. On n'est pas obligé de se ranger dans l'hémicycle bouddhiste. Il faut absolument croire aux vies antérieures, il faut absolument croire à ceci. Non, pas du tout, justement. Et plus on va être franc, plus on va être honnête envers nous-mêmes, plus on va analyser comment on perçoit les choses, plus, après, l'enseignement bouddhiste, il va prendre de la valeur. Parce que sinon, justement, ça ne va pas avoir beaucoup de sens. La libération, l'éveil. Si on pense que ce n'est pas possible d'être Bouddha, bon ben ça s'arrête là. On ne va pas chercher à atteindre l'éveil, on ne va pas chercher à atteindre la libération, on ne va pas chercher à aller plus loin. Si on pense que c'est, si on croit même pas que c'est possible, et ça risque de devenir hypocrite, quoi. On va pratiquer une voie dans laquelle on n'a pas vraiment confiance. On n'a pas suffisamment de confiance. Oui, bon, peut-être il y a eu un Bouddha, peut-être pas, j'en sais rien. C'est possible d'y avoir un Bouddha, bon, peut-être pas. Et on va réciter des prières comme ça, avec une forme de légèreté, peut-être. Mais qui manquera vraiment beaucoup de profondeur et surtout qui manquera beaucoup de confiance. Et en tout cas, on n'ira pas vraiment dans la direction de l'éveil, en fait. On va finalement tourner en rond, quelque part. Un autre point aussi par rapport peut-être à d'autres philosophies ou comme philosophie hindouiste ou autre qu'on peut rencontrer, les philosophies indiennes en tout cas, le bouddhisme ne dit pas, bon, le bouddhisme dit que l'éveil est possible, ça c'est sûr, c'est le point ultime qu'on peut atteindre. Mais le bouddhisme ne dit pas que tout le monde va atteindre l'éveil. Ça, c'est très important. Que de manière inévitable, tout le monde va atteindre l'éveil. Le bouddhisme n'a jamais dit ça. Le bouddhisme dit que l'éveil est possible, mais il ne dit pas que tout le monde est capable de l'atteindre. Pas tous les êtres qui sont, même si on en a cette nature de Bouddha, en fait, on n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'on va tous nécessairement, à un moment donné, atteindre la libération et l'éveil. Pourquoi le bouddhisme dit ça ?
On n'est pas tous
On n'est pas tous capables on peut tous atteindre l'éveil, mais on ne va pas tous le faire. C'est ça l'idée. On peut tous. On a tous ce qu'il faut pour l'atteindre. On est tous capables d'atteindre l'éveil, mais on ne va pas tous forcément l'atteindre. Ça, ça demande... Pourquoi ? Oui. Je tourne autour du pot, là, autour pour essayer de vraiment bien implanter cette notion de refuge.
C'est une idée que j'ai, mais peut-être que voilà, peut-être qu'on n'a pas tous envie d'atteindre l'éveil et qu'on a la capacité de dire non, comme on peut dire oui.
Donc c'est ça qu'il faut analyser. Est-ce que l'on a envie d'atteindre l'éveil ? Déjà, c'est une chose, première chose à analyser. Est-ce qu'on a cette envie ? Est-ce qu'on a ce désir ? Est-ce qu'on a cette aspiration ? Et donc là, c'est vraiment un moment crucial. C'est pour ça que c'est la porte d'entrée, le refuge. Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser maintenant. Donc on a vu la mort, l'impermanence, tout ça. Mais maintenant, on en est là, on est devant la porte. Et on dit, il faut se poser toutes ces questions à ce moment-là. Si on ne se les pose pas, on passe à côté, quoi. Ou on n'entre pas, ou on passe à côté, ou on continue de manière hypocrite. On avance, mais bon. Il ne nous arrive pas grand-chose, finalement. On continue notre vie. Ouais, on étudie le bouddhisme. Les choses vont plutôt mieux que d'habitude parce que, on a quelque chose, on fait quelque chose d'intelligent, on donne un peu un sens à notre vie. Mais ça manque de quelque chose, quoi. Donc, on n'a pas. C'est ça qu'il faut se demander. Ouais. Est-ce qu'on a cette envie d'atteindre l'éveil ? Mais, oui, très, très, très bonne, question à se poser. Très, très bonne question. Oui ?
Oui, alors du coup, j'ai bien compris que les bodhisattvas revenaient s'incarner pour aider jusqu'au dernier être humain à atteindre l'éveil.
L'éveil, oui.
Et dans ce cas-là, il pourrait ne pas y avoir de fin, alors.
Eh oui, exactement. Puisque les êtres, pour pouvoir aider les êtres, il faut que les êtres soient réceptifs. Les bodhisattvas veulent bien venir, mais si personne ne les appelle, si personne n'est réceptif à leur demande de l'aide, ils ne vont pas forcément venir. Donc il peut y avoir justement un moment, vu la dégénérescence peut-être des temps, où on ne va pas demander aux bodhisattvas de venir, où peut-être les maîtres n'auront pas vraiment un grand impact sur les gens, préféreront se distraire par toutes sortes de choses. Mais, ouais. Oui, continuer. Qu'est-ce qui pourrait empêcher justement les êtres d'atteindre l'éveil ? Ça répond peut-être à une question de ce matin aussi. Et ça nous touche personnellement. Ça. Je ne dis pas ça, ce n'est pas une histoire pour, comme ça. C'est en nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on ressent, quoi ? C'est ça qu'il faut regarder.
Alors oui. Moi, je dirais que, bien que la personne ait vraiment envie, qu'elle ne soit pas vraiment convaincue qu'elle puisse y arriver. Mmh. Ça peut être un frein.
De ne pas être convaincu.
Oui, mais je ne suis pas capable.
Et c'est là où il intervient cette notion de conviction et de confiance dans les trois joyaux, et de conviction qu'on peut y arriver. Et là, bien sûr, plus on réfléchira à la nature de l'esprit, à notre potentiel, et plus on aura confiance. Tout ça, c'est mettre en soi, dans son esprit, les éléments logiques, justement, pour pas que cette croyance soit une croyance simplement émotionnelle, mais bien réfléchie, bien réfléchie.
Oui, il y a de belles histoires dans le Zen où il y a le disciple qui se présente et puis il se fait virer dans un premier temps. Et la question, qu'est-ce que tu veux ? Il se fait virer dans un deuxième temps. Il reste devant la porte, il pleut, il fait mauvais, il reste 4 ou 5 jours. Et c'est vraiment quand il veut qu'il rentre. Sinon, il passe par la porte. Il le teste quoi, au niveau de sa motivation, en fait. Je confirme ce que tu dis, mais dans le Zen, il y a des histoires comme ça qui sont intéressantes pour que puisse rentrer dans le temple.
Oui. Il y a une autre raison qui fait appel plus à la logique, une raison logique, plus qu'individuelle. Mais c'est marrant parce que on a tous, moi aussi d'ailleurs, je me mets au même niveau, on a tous tendance à voir les choses sur une seule vie. Et c'est là où où on est limité en tant qu'occidentaux, peut-être. Hein. Alors que les bouddhistes asiatiques le sont beaucoup moins que nous, puisqu'ils voient toute cette évolution sur une infinité de vies. Pas sur trois ou quatre, hein, sur de nombreuses, de nombreuses, de nombreuses vies. Hein. Donc, oui. Tu as une question ? Oui.
Par rapport à ça, donc moi j'ai pensé à ça. Ma crainte, c'est, bon, je renais humaine, super, ou humain.
Comment ?
Est-ce que dans la prochaine vie, je vais être connectée au dharma ? Ça, c'est ma crainte.
Ouais, c'est ça, ta crainte de ne pas être connectée au dharma.
Voilà. Mm-hmm. Faut créer les causes.
Là, qu'est-ce que tu es en train de faire ?
Oui, là, je crée les causes.
Bon.
Ouais. Donc, logiquement, ça devrait le faire, quoi.
Le refuge, c'est ça aussi.
D'accord.
Le refuge aussi, ça sert à donner la conviction que dans la vie prochaine, eh ben, on va continuer notre parcours parce qu'on a un refuge ferme et stable. Donc, tout le but, en fait, de ce qu'on est en train de faire, c'est de donner de la fermeté, hein, de la stabilité au refuge. Pour que ça soit vraiment quelque chose de ça. Donc, oui, si on voit ça sur plusieurs vies, en fait... Ce qui me fait dire que tous les êtres ne vont pas immanquablement atteindre l'éveil, c'est parce qu'ils l'auraient déjà fait. Logiquement. Ça serait déjà arrivé. Puisqu'il y a un nombre de vies infinies. Vous voyez la logique ? Je vous ai perdu, là. Réfléchissez. Puisqu'il y a un nombre de vies infinies avant nous, donc si tous les êtres devaient atteindre l'éveil, ben, ça serait déjà arrivé.
C'est-à-dire qu'il
n'y
aurait plus personne ?
Comment ça, il n'y aurait plus personne ? Il n'y aurait que des êtres éveillés ?
Oui, c'est ça.
Dans une infinité de vies. Oui, il en reste plein. Oui. Ah, alors, il faut bien commencer quelque part. Qu'est-ce que c'est le commencement ? Il est quand, ce commencement ? Oui. Et voilà, ça, c'est un autre aspect, c'est que pour nous aussi, il doit y avoir un commencement quelque part. Et là, le bouddhisme remet bien dans cette perspective de l'infinité. Hein. Plus on va se rapprocher de cette infinité, justement, plus on va saisir ce que c'est qu'un Bouddha et comprendre vraiment ce que c'est qu'un Bouddha. Donc, est-ce qu'il y a eu un Bouddha ? Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait devenir Bouddha ? La pratique ? Quoi ? Ah oui, pardon. Ouais. Pour atteindre l'éveil, pour que quelqu'un atteigne l'éveil, comme nous, par exemple, hein, nous, si on, il nous faut de l'inspiration. Il faut qu'on nous aide. Il faut qu'on nous envoie des bénédictions, on va dire. Il faut qu'il y ait des enseignements. Il faut qu'il y ait des... je ne sais pas, un support, quoi. Il faut qu'on émule certaines, qu'on ait des références, que l'on voit des maîtres réalisés, que l'on voit des Bouddhas peut-être, et que ça nous motive. Est-ce qu'il y a eu un premier Bouddha alors ? Oui ? C'est quoi un Bouddha primordial ? Ouais, les gens de Zoom veulent s'exprimer. Oui. Pardon, excusez-moi, on est en train de focaliser l'attention sur la salle. Sur Zoom, oui, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? Par rapport à tout ça ? Des questions ?
Moi, je crois au bouddhisme. Avant, je n'y croyais pas. Je vous écoutais. Et tout a été développé, je me suis mis à lire, et puis maintenant j'y crois profondément. Et je voulais juste revenir sur l'analyse. L'analyse est faite sur la méditation, bien sûr, mais après, quand on est au travail, je regarde tous les gens. Et puis ce qu'ils me disent, et comment j'aurais réagi avant, et comment je réagis maintenant. Et là, je m'aperçois qu'il y a une grande, grande différence, parce que, excusez-moi, j'avais un mauvais caractère, très, très mauvais, d'ailleurs, que je dois toujours avoir. Et puis, la dernière chose, bon anniversaire, Christian.
Ça, c'est... Fallait pas le dire. Merci beaucoup, Xavier, merci. Démasqué, oui. J'ai eu beaucoup de gâteaux. On m'a offert beaucoup de gâteaux à midi, mais ils ne savaient pas que c'était mon anniversaire. Merci. Bon, vous m'avez déstabilisé, là. Je ne sais plus quoi dire. Qui c'est Sanka qui vous a...
Il y a une autre personne sur Zoom qui a question. Stéphanie.
Alors en fait, je voulais juste savoir par rapport à cette idée, bon anniversaire en tout cas, au passage, par rapport à cette idée que toutes les personnes ne pourront pas atteindre l'éveil, est-ce que c'est pas aussi lié à l'impermanence et en fait on va finalement arriver à la fin du monde et tous les gens, tous les êtres humains n'auront pas l'occasion d'atteindre l'éveil et les êtres dans le monde animal et dans le monde humain.
Qu'est-ce que c'est que la fin du monde ?
Bah, en fait, on voit finalement le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Si on regarde ça par rapport à l'impermanence, on pourrait s'imaginer que le monde terminera un jour et que tout disparaîtra. Donc, sinon, ça voudrait dire qu'il y a une... Comment dire ? Il y a... le monde restera ou d'une manière ou d'une autre existera toujours. Est-ce que c'est en ça que le bouddhisme, est-ce qu'on se rattache à cette idée d'infinité du monde, finalement, d'infinité exactement. De l'existence ?
Exactement, parce que si on voit les choses en termes de continuité, comme l'enseigne le bouddhisme, ça veut dire que si à un moment donné, le monde, à un instant T, le monde cesse, vu qu'il y a les causes et les effets, à l'instant T2, le monde se recréera de nouveau.
D'accord, donc ça veut dire que, en fait, c'est plus l'impermanence, c'est plutôt la continuité.
Oui, il y a une impermanence dans cette continuité, oui, effectivement. Puisque c'est une continuité, c'est forcément impermanent. Sinon, ça serait fixe.
Hein ? Oui.
D'accord ? Donc, la notion de fin du monde, en fait, c'est impossible. Puisque cette fin donnera naissance à autre chose. Hein. À l'instant suivant, à chaque instant, il y a une continuité. Donc, à l'instant où le monde cesse, à l'instant suivant, il y a autre chose qui apparaît. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas
de... C'est comme le monde...
Il n'y a pas de début, et il n'y a pas de commencement, et il n'y a pas de fin. Ou alors, pour un bodhisattva, la fin, c'est parce que tous les êtres seront éveillés. Mais bon... Il l'aurait déjà été.
Ouais.
Mais la pratique, l'œuvre d'un bodhisattva, c'est justement d'œuvrer à ce que les êtres soient, à tous les êtres soient éveillés, au maximum, au plus possible. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, oui, il y en a d'autres ou je... Qui ça ? Thomas ? Oui ?
Oui, moi juste pour cette question, ma réflexion, ce qui m'étonne le plus, en fait, c'est que ça soit aussi tardif, le Bouddha, qu'il n'y ait pas eu un être éveillé avant, en fait, puisque ça fait longtemps que les hommes étaient dotés de qualité, qu'on a attendu finalement assez longtemps, parce que le Bouddha, c'est assez contemporain dans l'histoire de l'humanité, pour qu'un être s'éveille. Et alors, c'est peut-être lié à tout simplement la trace de l'histoire et que ça puisse passer d'une génération à une autre. Et j'ai une autre réflexion qui est assez terre à terre, je ne sais pas si c'est hors sujet ou pas, mais c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes, en fait, la population grandit. Donc peut-être qu'il y a, on progresse quand même dans le bon chemin, parce qu'il y a de plus en plus d'esprits qui trouvent des bonnes renaissances humaines. Je ne sais pas si c'est un aspect qui fait partie un petit peu de cette réflexion ou pas.
Oui, il y a deux choses très, 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 très différentes. Ta première question, elle s'appuie sur un raisonnement erroné. C'est-à-dire, tu dis que... Qui te dit qu'il n'y a pas eu de Bouddha avant le Bouddha Shakyamuni? Tu as une preuve?
Non. Non, non, je me pose la question.
Oui, effectivement. Non, il y a eu l'autre Bouddha avant le Bouddha Shakyamuni. Le Bouddha Shakyamuni est le quatrième Bouddha de notre ère.
D'accord.
Il y a eu d'autres avant lui. Et avant ces autres Bouddhas, il y en a eu certainement d'autres. Puisque si on part du principe que pour qu'un Bouddha s'éveille, il lui faut l'inspiration d'autres Bouddhas. Donc, on en revient à la notion tibétaine qu'il y a des milliers et des milliers de Bouddhas, en fait. Il y a pas, et c'est beaucoup plus plausible qu'il y ait d'innombrables Bouddhas qu'un seul. Hein? C'est complètement... Dans la logique du bouddhisme, qu'il y ait qu'un Bouddha, c'est complètement impossible. Dans la logique du grand véhicule, hein? Pardon. Donc, la logique du grand véhicule, justement, met les choses à un tout autre niveau. Dans le petit véhicule, on considère qu'il n'y a eu qu'un Bouddha. C'est Bouddha Shakyamuni a atteint l'éveil, à force de pratique, etc. Il a montré que tous les êtres ordinaires pouvaient atteindre l'éveil, parce que lui-même était un être ordinaire, il était prince, etc. Il a atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi. Tout ça. Donc c'est le Bouddha historique. Mais c'est une explication historique, ça. Au niveau du Mahayana, qui voit les choses d'une manière beaucoup plus spacieuse, cosmique, puisque le Bouddha Shakyamuni était éveillé il y a bien longtemps. C'était simplement une manifestation de l'éveil qui est apparu à ce moment-là sous l'arbre de la Bodhi pour être bénéfique à des disciples qui vivaient à cette époque-là et pour donner au monde un enseignement qui dure encore de nos jours. Mais si on replace ça dans la perspective des quatre corps de Bouddha, c'est beaucoup plus riche. Puisque quand on atteint l'éveil, justement, on réalise le dharmakaya. C'est-à-dire notre esprit, qu'est-ce qu'il fait, notre esprit, là, il se fond dans la vacuité. Hein. Le dharmakaya, c'est la vacuité de l'esprit d'un Bouddha. Et de cette vacuité, il peut émaner toutes sortes de formes qui vont aider les êtres en fonction de leurs besoins. Et donc, tous ceux qui atteignent l'éveil réalisent forcément le dharmakaya. Réalisant le dharmakaya, ils peuvent émaner une quantité de formes absolument innombrables pour aider les êtres. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas tous atteint l'éveil? C'est uniquement nos limites personnelles ou qui nous bloquent, quoi, en quelque sorte. Et pourquoi il y a plus de plus en plus d'individus, de gens qui prennent de renaissance humaine? Ça peut s'expliquer au niveau différentes créatures qui vivent un peu partout, dans d'autres univers, qui peuvent se réincarner sur Terre. Il n'y a pas que cet univers qui existe. Il faut toujours voir vraiment les choses dans une multiplicité de mondes, hein, d'espaces, de temps aussi différents. Hein. Nous, on a une conception très, très linéaire de l'espace-temps. Mais ça, à l'échelle d'un Bouddha ou de tous ceux qui réalisent l'éveil, ça n'existe pas comme ça. Hein. Ça n'existe pas du tout comme ça. C'est notre manière d'appréhender ça. Et voilà. Donc toujours essayer de revoir les choses vraiment à un niveau cosmique, quoi, vraiment. Et c'est à ça que nous invite le grand véhicule. Et plus on fera ça, justement, plus le refuge prendra de sa force. Donc la possibilité qu'il n'y a jamais eu de Bouddha, est-ce qu'elle existe? Hein? Ben non. Bien. Un autre niveau peut-être d'analyse auquel je voudrais... Qu'on regarde pourquoi justement, qu'on continue à investiguer pourquoi donc on s'intéresse au bouddhisme, et qu'est-ce qu'on attend du bouddhisme, et qu'est-ce qu'on recherche justement en prenant refuge. Ouais, bon, le refuge nous propulse. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que le refuge, plus on réfléchit au refuge, plus ça nous propulse à un niveau qui nous élève quelque part. C'est pour ça que c'est difficile, à mon avis, c'est pas un sujet aussi facile que méditer sur la mort, sur l'impermanence, qui sont des choses vraiment évidentes. Tandis que là, ça demande quand même un certain effort, je trouve, d'élévation un petit peu, pour réfléchir à tous les présupposés donc qui sont derrière le refuge, tout ce que ça amène aussi comme changement. Et ça, on en revient toujours à la question de base, c'est pourquoi on étudie le bouddhisme? Qu'est-ce qu'on attend de cet enseignement bouddhiste? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut simplement une thérapie? C'est-à-dire une méthode qui élimine nos défauts, nos perturbations mentales, on va dire, pour trouver un état de santé psychique qui nous mettent plutôt à l'aise avec les autres et avec nous-mêmes. Et donc ça, c'est tout à fait possible de pratiquer le bouddhisme comme ça. Et dans ce sens-là, le refuge n'a pas une grande valeur, en fait. Hein. C'est pas quelque... On va plutôt prendre le dharma comme seul refuge à ce moment-là. Ça suffira. On n'aura pas besoin vraiment de prendre refuge... peut-être dans le Bouddha, en ce moment, de se poser toutes ces questions sur le Bouddha. Il suffira simplement d'essayer d'appliquer les méthodes que préconise le bouddhisme pour essayer de s'élever un petit peu. Mais donc ça veut dire que qu'on voit le bouddhisme simplement en termes d'amélioration personnelle. On voit dans le bouddhisme quelque chose qui va nous aider à nous améliorer personnellement. Ça y est dans le bouddhisme, tout à fait. Bien sûr que c'est ça, il y a ça. Mais ça ne se limite pas à ça. Ça, c'est encore une vision un peu limitée. Hein, si on pense seulement en termes d'amélioration personnelle ou individuelle, il y a des tas de méthodes là-dessus. Il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour faire ça. Hein. Il y a des tas de thérapies ou de coaching, hein, je ne sais pas, qui permettent justement d'améliorer ses compétences, de faire, d'être un meilleur être humain ou d'avoir une certaine aura, peut-être. Donc ça, c'est quelque part, c'est comme si on dégradait le bouddhisme en faisant ça. Hein. Je ne veux pas dire de ne pas le faire, bien sûr qu'on peut, entrer dans le bouddhisme comme ça, commencer en tout cas, mais s'arrêter à ce niveau-là, c'est un peu dommage, quoi, disons. C'est comme si on n'avait pas. On dégradait un petit peu le bouddhisme au lieu d'aller au maximum, hein, au lieu d'utiliser tout ce que le bouddhisme a à nous offrir, on n'utilise que l'aspect psychologique du bouddhisme. Mais c'est possible, hein, bien sûr, de le faire. À ce moment-là, le bouddhisme devient simplement une autre école, une forme de psychothérapie. Et ce n'est pas ça, le bouddhisme. Hein, c'est certainement pas ça. C'est ce que j'appellerais une forme de bouddhisme light. Hein, puisque ce bouddhisme light, finalement, il ne prend pas en compte tous les aspects du bouddhisme. Il ne va pas prendre en compte vraiment... l'aspect de la multiplicité des vies, pas nécessaire, hein, ni de toute la cosmologie, comme ça, qui font vraiment partie du bouddhisme, ni de peut-être du développement de bodhicitta, qui est indispensable pour atteindre l'éveil, peut-être un certain développement de compassion, d'amour, de compassion, de bienveillance, ça certainement, dans la psychologie, c'est assez important. Peut-être la réalisation de la vacuité n'est pas nécessaire non plus, bien que ça puisse aider quand même, mais c'est pas nécessaire. Donc finalement, on ne garde que très peu de choses du bouddhisme si on fait du bouddhisme simplement une psychologie. Hein. On va garder que l'aspect transformation des émotions négatives en quelque chose de positif. Mais bon, c'est une manière qu'on peut avoir, hein, de pratiquer le bouddhisme. Et ça, il faut s'interroger aussi là-dessus. Est-ce que pour nous, le bouddhisme, c'est ça ? À un autre extrême, sur l'autre extrême, qu'on pourrait voir, donc, un autre extrême, c'est de penser que le Bouddha est un sauveur. On rentre dans le bouddhisme. J'ai connu certaines personnes qui envisageaient les choses comme ça, qui envisageaient le fait que pensaient que le Bouddha était une forme de sauveur, au sens un peu, je sais pas, pas un peu, peut-être un peu chrétien ou autre, je sais pas, d'autres religions. Et à ce moment-là, c'est un extrême, hein, parce qu'on ne considère pas justement tout le refuge dans sa totalité. Certainement, on peut prendre le Bouddha comme un modèle. Et quand on demande au Dalai Lama qui est son modèle, c'est ce qu'il répond. Hein. Lui, il répond, mon modèle, c'est le Bouddha. Le Bouddha Shakyamuni. Nous, on peut prendre comme modèle le Dalai Lama, par exemple, qui semble plus proche de nous comme modèle quand même, puisqu'il il a un rôle social, politique, il est impliqué dans... Il fait des choses absolument remarquables pour les aides, pour les Tibétains notamment, et tout ce qu'il a fait depuis son exil, c'est assez formidable. Mais le Dalai Lama, lui, il met encore... Lui, il prend comme modèle le Bouddha lui-même. Mais... Et ça me faisait penser, par exemple, aux qualités. Pourquoi est-ce que le Dalai Lama prend le Bouddha comme modèle ? Ben, parce qu'il se concentre sur les qualités du Bouddha. Mais comme pour nous, les qualités du Bouddha sont assez abstraites, c'est difficile de nous relier, on a plus tendance à vouloir se relier à un être réalisé comme le Dalai Lama. Mais pour le Dalai Lama, lui, les qualités du Bouddha, elles sont réelles. Hein ? Par exemple, une des qualités de la parole du Bouddha... Ça, c'est pour nous, c'est déjà inconcevable. C'est de pouvoir s'adresser à un auditoire infini dans toutes les langues possibles. Un Bouddha, avec ça, une des qualités de la parole du Bouddha, c'est ça. C'est de parler, hein, de s'exprimer, soit dans toutes les langues possibles en même temps. Hein, c'est-à-dire que tout le monde, quelle que soit sa nationalité, comprend la parole du Bouddha. J'avoue que ça me paraît même inconcevable au niveau linguistique. On se demande comment c'est possible. Est-ce que en tant que traducteur aussi, je me demande bien comment ils peuvent faire. Mais la parole du Bouddha est telle qu'il suffit d'un mot, finalement aussi, pour que ce mot évoque une réalité pour tous les gens, quelle que soit leur langue, quel que soit leur niveau. Et donc ça, pour moi, difficile à concevoir. Mais quand je pense au Dalai Lama, par exemple, le Dalai Lama, il peut s'exprimer devant des auditoires. Quand il a donné, je crois, Kala Chakra en Inde, il y a quelques années, bien avant le Covid, il y avait 200 000 personnes. Je ne sais pas si vous avez assisté à les enseignements du Dalai Lama. Quand vous y allez, la dernière fois, il y avait que 40 000 personnes. C'était pas beaucoup. Et à Bodh Gaya, l'élément est sur une scène. On voit un être humain, hein, puisqu'on voit un être humain quand même, hein, tout petit. Maintenant, il y a des écrans, donc ça va, on peut le voir de plus près. Mais on voit une foule immense. Et le Dalai Lama, sur un trône, tout seul, avec sa voix de... On appelle le rugissement de lion. Dans les textes, il parle beaucoup du rugissement du lion. Dès que le lion rugit, tous les autres animaux s'écrasent, ne disent plus rien. Et le Yama, c'est exactement ce que l'on peut ressentir. Dès qu'il ouvre la bouche, il y a un silence qui règne. Il suffit qu'il dise un mot comme ça pour que dès sa présence, son élocution fasse taire tout le monde, et tout le monde est complètement absorbé. Et c'est assez... Ça, on peut le voir. Hein, on peut le ressentir à notre époque. Je l'ai ressenti, il y a plein de gens qui l'ont ressenti. Et c'est... Cette capacité d'un individu, d'un être réalisé, pour moi, c'est pas aucun doute, capable de s'adresser à autant de monde, eh bien, ça, ça évoque aussi cette capacité de la parole du Bouddha, justement, de pouvoir, à un niveau peut-être encore supérieur, et c'est pour ça que le Dalai Lama prend le Bouddha comme modèle, parce que pour lui, c'est encore un autre niveau, mais voilà. Et le Dalai Lama, quand on donne un... ça fait partie aussi de sa parole, mais peut-être aussi une des qualités de son esprit, c'est que quand il enseigne, par exemple, sur un sujet, quand il enseignait, il donnait la transmission du Lamrim, il avait... pas un texte devant lui, mais il était capable de prendre dans plusieurs lamrim, qui sont des voies progressives, hein, dans plusieurs textes en même temps, de prendre ici la citation qui correspondait exactement à ce qu'il était en train de dire, et puis là, dans un autre texte, ce qui correspondait encore mieux à un autre aspect qu'il était en train d'évoquer, et comme ça, de jongler comme ça avec tous les textes, en prenant dans chacun exactement ce qui est illustré le mieux son propos et faisait la spécificité de ce texte avec avec une rapidité absolument déconcertante. Moi, quand je dis un texte, j'ai déjà du mal à comprendre. Et c'était une des qualités. Donc, ça laisse entrevoir finalement que jusqu'à la bouddhéité, on peut développer de plus en plus de qualités qui déjà à notre niveau pour un quand on se compare au Dalai Lama, on voit le fossé qu'il y a entre lui et nous. Mais avec le Bouddha, c'est encore un saut encore beaucoup plus grand, un saut qualitatif énorme de se confronter à ça. Donc tout ça pour voilà, vous dire, quand on parle des qualités du Bouddha, on est au maximum des qualités du Bouddha. On ne peut pas aller plus loin. Mais de là où on en est jusqu'au Bouddha, il y a toute une gradation de qualités, plus ou moins. Quand on voit aussi des maîtres spirituels que l'on peut fréquenter ici ou ailleurs, on a aussi un aperçu de leurs qualités par rapport aux nôtres. Et c'est ça aussi, prendre refuge. Quand on prend refuge dans la Sangha, par exemple, donc là, prendre refuge dans le Bouddha, ben, c'est clair, hein, c'est prendre refuge dans l'ultime. Mais prendre refuge dans la Sangha, c'est aussi prendre refuge en même temps dans le Dharma qui a permis à tous ces êtres de réaliser, hein, leur qualité, leur potentiel, d'avoir des niveaux plus élevés que nous. Pourquoi ils ont des niveaux plus élevés que nous ? C'est pas parce qu'ils sont nés comme ça, hein ? C'est parce qu'ils ont pratiqué, c'est parce qu'ils ont étudié, c'est parce qu'ils ont fait des efforts, c'est parce qu'ils ont... hein ? C'est pas tombé tout seul. Donc ça veut dire que nous aussi, on est pareil. Si on fait des efforts, eh bien, on va développer des qualités. On va avoir aussi, sur toute cette voie, jusqu'à l'éveil, on va développer de plus en plus de qualités. Donc prendre refuge dans la Sangha aussi, c'est prendre refuge dans ces êtres réalisés qui nous montrent, ils ne nous montrent pas leur qualité pour nous montrer leur qualité, ils s'en fichent de ça, mais ils nous montrent, en nous montrant leur qualité, ils nous montrent le joyau du Dharma. Hein, que si on met ces enseignements en pratique, eh bien, on va avoir les mêmes qualités qu'eux. Donc voilà pourquoi l'aspect psychologique, c'est pas suffisant. Il faut aussi se relier au joyau de la Sangha, qui va nous montrer comment, d'une manière intuitive, d'une manière peut-être plus directe aussi, en se confrontant avec ces personnes-là, avec ces êtres réalisés, qu'il est possible de mettre en pratique, que si on met en pratique ces enseignements, on va atteindre les mêmes qualités qu'eux. Et donc ça, c'est stimulant. Donc vous voyez les refuges, les refuges dans les trois joyaux, on parle vraiment de joyaux, hein, le joyau du Bouddha, le joyau du Dharma, le joyau du Sangha. Hein. Et il y en a trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas un. Hein. Donc c'est les trois qui sont utiles comme outils de pratique, si on veut dépasser nos limites, si on veut aller au-delà. Hein. Donc prendre refuge dans les trois joyaux, c'est prendre refuge dans notre potentiel illimité d'atteindre des qualités. C'est ça que ça veut dire, prendre refuge. Donc quand on récite la prière de refuge, quand on dit je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma, le Sangha, il faudrait chaque fois qu'on pense à ça, normalement. Hein. Penser aux qualités du Bouddha, du Dharma et du Sangha, mais penser aussi que ce sont des qualités qui nous montrent que nous sommes capables de les obtenir. Et que nous sommes sur une voie qui va nous permettre de les obtenir à un moment donné. Parce qu'en fait, tout ça révèle en fait notre potentiel. Entre nous, on le voit bien aussi. Il y a des gens qui ont plus de qualités que d'autres. Par exemple, je sais pas, moi, André est plus généreux que moi. Il a une grande générosité, par exemple, et il va être très bon. Cette générosité, par exemple, si je compare ma générosité à celle d'André, par exemple, je vais dire, je pourrais être jaloux. À quoi ça sert d'être jaloux ? Rien. Absolument rien. Ça ne va pas me rendre plus généreux. Ni lui moins généreux. Ça ne va rien faire du tout. C'est le fait de regarder les qualités des autres, donc bien sûr des joyaux, mais aussi des êtres ordinaires avec que l'on fréquente, ça nous montre que ces qualités font partie de notre nature de Bouddha. Hein ? Que nous aussi, nous pouvons devenir quelqu'un de généreux. Si André est généreux, il n'est pas né généreux. C'est parce qu'il a réfléchi. Peut-être qu'il s'est dit, être généreux avec les autres, c'est une manière pour moi de les aider. Hein ? Mais c'est pas toi, André. C'était André fictif. Donc voilà, quelqu'un de André très généreux. Et si je pense à sa générosité, justement, je vais voir que c'est un moyen de. Pour lui, il a compris, justement, que quelqu'un n'est pas généreux comme ça, sans réflexion, je pense. Hein. Les qualités, elles correspondent. Je ne sais plus comment le dire. Ce que les gens pensent, en fait. Si quelqu'un est généreux, c'est parce que cette personne trouve que c'est nécessaire d'être généreux, que c'est bon, que ça lui fait du bien, que ça apporte des choses aux autres. Donc il y a quelque chose, il y a une réflexion derrière. Il n'est pas généreux mécaniquement, quoi. Hein? Et cette qualité rentre dans la nature de Bouddha. Et donc moi, si je veux devenir généreux, il faut que je réfléchisse pourquoi je veux être généreux. Hein? Je ne veux pas être généreux simplement parce que dans la vie prochaine, peut-être je serai riche. J'en sais rien, c'est ce que dit le bouddhisme. Si vous êtes généreux, vous serez riche dans la vie prochaine. Peut-être. Mais est-ce qu'on fait les choses comme ça, nous, occidentaux ? Je ne sais pas. Hein, on ne pense pas à la vie prochaine. Et donc, ça me fait penser à autre chose. Je terminerai là-dessus. Juste pour terminer sur ce point-là. Et c'est intéressant quand même, parce que ça touche aussi encore le refuge d'une autre manière. Une qualité, en prenant une qualité qu'on... Bon, on va dire qu'on est tous des gens très honnêtes. Hein. C'est vrai. Comment ? C'est le cas. J'en doute pas. On est tous très honnêtes. On ne ment pas, on ne vole pas, on ne triche pas. On est des gens très honnêtes. Pourquoi est-ce qu'on est honnête ? Alors le bouddhisme, traditionnellement, on dit, c'est pour les vies futures. Okay, on met ça de côté. Nous, occidentaux, on ne pense pas aux vies futures. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que l'on est honnête ? Qu'est-ce qui nous motive à être honnête ? Pour ne pas avoir d'ennui. Avec qui ? Avec la loi ? Oh, mais simplement, sans rentrer dans la... Oui. Pour ne pas avoir d'ennui. Donc, on est... Ok, c'est bien. Vas-y. Ouais, c'est tout. Alors, bon, vis-à-vis des autres, alors, pour ne pas avoir d'ennui vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des amis, c'est ça que tu veux dire ?
Moi, oui. Oui. Et puis bonne conscience aussi.
Pour se donner bonne conscience. Si, la bonne conscience. Oui, très important ça. Tu voulais dire autre chose par rapport à soi-même ?
Par honnêteté, oui, vis-à-vis de soi.
Par honnêteté, donc on n'est pas malhonnête, par honnêteté vis-à-vis de soi. Hein ? Par respect de soi, très bien. Par respect de soi. Ok. Par respect de soi. Oui, j'aime bien ça. Respect des autres et respect de soi. C'est ça qui nous incite à être honnête. Il y a d'autres choses qui vous incitent à être honnête ?
Moi, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien et ça nous élève. On se regarde différemment quand on essaie de faire... Mais c'est par rapport à l'éthique.
Oui, oh, ça, ça touche l'éthique, oui. Mais je ne voulais pas utiliser ce mot éthique, effectivement, parce que... Oui, ça fait du bien, exactement. Donc, on se sent bien. On se sent bien. Moi, ça me va aussi comme, comme attitude. Être honnête fait que l'on se sente bien. Et on se sent... Tu as dit quoi? Ça évite les problèmes. Hein, ça évite la souffrance, autrement dit. Voilà. Ça... Donc, voilà, deux choses au niveau, spontanément, comme ça, montrent bien qu'on est dans cette quête du bonheur, ça fait du bien, et d'éviter la souffrance, de, justement, de ne pas s'amener des ennuis. Et ça, pour nous, occidentaux, ça suffit. On n'a pas besoin de penser aux vies futures. Hein? Le bouddhisme ajoute en plus les vies futures parce que c'est une réalité dans le bouddhisme. Hein? Nous, on n'a pas appris à voir les choses comme ça. On ne l'a pas instinctivement, cette histoire. Hein? Déjà, nous, ça tout se limite à cette vie. Hein? Mais ça suffit, en fait. Hein? Donc, on peut très bien devenir souhaiter une être une personne, une bonne personne, simplement, pour dans le but de cette vie. Donc, le principe de peur qu'introduit le bouddhisme par rapport au refuge, la peur des vies futures, pour nous, c'est un petit peu difficile à entrevoir, parce qu'on n'a pas ce réflexe, vous voyez, on n'a pas cette attitude. Mais en fait, si on regarde bien dans notre fait de vouloir être honnête aussi, peut-être il y a aussi une forme de peur. Hein, peur de la souffrance, peur des ennuis, et peur de ne pas avoir de ne pas se respecter soi-même, ou de ne pas être respecté des autres. Donc c'est aussi, de manière sous-jacente, il y a cette volonté aussi de transcender une peur. Oui, André.
Oui, c'est Geshe Tenge qui l'a souvent répété, qu'en fait, c'était apaiser son esprit. Et je crois que pour avoir un esprit apaisé, c'est indispensable d'avoir une éthique.
Une éthique,
c'est absolument indispensable.
Oui, ouais. Bien sûr. Ouais. Oui, il y a des questions sur Zoom.
Oui. Oui. Je pense que à propos d'être honnête, on est malhonnête d'être honnête de par notre éducation. Ce qui veut dire que notre éducation a fait que nous sommes comme nous sommes. Donc, nous pensons à être honnête nous-mêmes alors que nous ne le sommes pas. Et j'ai une autre petit truc sur le Bouddha et puis les qualités, si vous me le permettez.
Oui.
Quand on fait des méditations, on fait des visualisations. Mm-hmm. Donc, il y a des petits Bouddhas qui partent des lumières.
Oui.
Notamment sur l'amour, je crois.
Oui, oui, oui.
Et pourquoi pas ne pas se dire que le petit Bouddha qui est sur la tête de chaque être sur Terre ne parlerait pas la langue de l'être qui est en dessous de lui.
Mais bien sûr, quand on fait des visualisations, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Merci, Christian. Bien sûr, bien sûr.
C'est tout à fait possible. Mm-hmm. Comment ? Oui ? Qui ça ?
Sven.
Ah, Sven. Oui, on vous écoute. Allumez votre micro si vous voulez parler. Voilà.
Ah, c'est bon. Voilà. Merci Christian. C'était pour répondre à votre question sur l'honnêteté. Pourquoi on est honnête ? J'ai le sentiment quand on arrive à, par exemple, après, pendant une méditation sur le souffle, où on passe par un moment d'apaisement, en général, moi dans ces moments-là, j'aspire plutôt à l'honnêteté. C'est plutôt ce qui vient spontanément. Par contre, c'est pas vrai tout le temps. Et dans ces cas-là, c'est plutôt la peur de la gueule de bois, c'est-à-dire que c'est l'anticipation du moment où on va se rendre compte qu'on était malhonnête, des conséquences que ça a eu. Et c'est vrai, c'est un sentiment plus d'angoisse ou de malaise qui va venir rappeler à l'honnêteté. Enfin, ça, c'est la bonne version, parce qu'il y a les moments où on n'agit pas honnêtement. D'accord. Mais bon, on sait qu'on le payera.
Version. Je garde la bonne version.
On sait qu'on le payera. Un peu, ouais. Moi, l'image que ça me donne, c'est la gueule de bois. C'est-à-dire que on va se doper avec un peu de facilité, d'accélération, d'excitation, mais on sait qu'on le payera. Mais on s'en rend plus compte, pour moi, dans les moments où on a réussi, soit parce qu'on est dans un environnement un peu bienveillant, sécurisant, un peu comme on fait ce week-end. Voilà. Ça peut aussi être des moments en famille ou avec des gens qui ont, on a une facilité de confiance.
Oui.
Mais pour les autres moments, c'est plutôt la peur de la gueule de bois, moi, qui me rend honnête. Voilà. Mmh. C'est de savoir qu'à un moment donné, je vais me sentir très mal quand je vais réaliser ce que j'ai fait.
Mmh. Voilà. Donc, ça explique un petit peu psychologiquement pourquoi la peur rentre justement dans les causes du refuge. Ça nous remet voilà, à notre échelle. Ce n'est pas complètement idiot, quoi, cette histoire, d'avoir peur des conséquences. Voilà. On va faire une petite pause jusqu'à enfin, un quart d'heure. Il est quelle heure ? Il est jusqu'à 16h10. On reprend à 16h10. Bon, ne vous inquiétez pas, on va rentrer hein, dans les qualités des joyaux, mais voilà, vous serez prêts. Hein.